La coiffeuse aux accents de nos sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milana Volochenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentiane Cavière d'Aubrac. Posez vos affaires, détendez-vous, mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de nos sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie, si vous voulez bien nous suivre. Son nom de l'émission, ambigu et étrange, la coiffeuse aux accents, a pour but réveiller vos esprits et vous amener vers deux plateaux de votre conscience. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens. Olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile et celui sixième, si recherché et espéré. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions, ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, le fameux chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la d'aventure d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquille nous ramène à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël. Si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques branches de sapin dans les jonquilles. Enfin, une gousse de vanille et on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Aujourd'hui, nous ouvrirons le tiroir du cahier de musique, donc on fera la petite stimulation de notre sens auditif. On parlera des méthodes d'apprentissage musical qui sortent des sentiers battus et amène à l'épanouissement personnel. Ce sujet est mis sur le plateau car du 21-25 février 2022, en partenariat avec le Conservatoire d'Aveyron et la ville d'Espalion, démarre la masterclass d'improvisation musicale ouverte à tous, et j'insiste qu'il est vraiment ouverte à tous, animée par le pianiste Fabrice Soulery qui ne nécessite plus être présenté et c'est lui qui est notre invité du jour. Fabrice, avant de vous donner la parole, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur les méthodes académiques que nous connaissons finalement tous.
Les méthodes académiques d'enseignement de la musique, eh bien, on peut dire qu'elles sont basées autour du solfège depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir un cliché parce que nous avons tout de même pas mal de jeunes professeurs qui tentent de contourner la difficulté qu'impose le solfège à des enfants qui ne sont pas faits pour cela. Alors, c'est très important d'en parler parce que le solfège n'est pas un dogme. Le solfège n'est pas le passage obligé pour la musique. Et je veux bien en débattre avec quiconque ne serait pas d'accord avec cette proposition. Je peux juste donner un exemple. Aujourd'hui, eh bien, la majorité des musiques que les jeunes écoutent, aujourd'hui et hier, d'ailleurs, depuis plusieurs générations, est une musique qui est très peu écrite et qui est issue de, disons, de greffes, on va dire, civilisationnelles, entre donc des musiques qui viennent de différentes cultures orales, où la musique est une discipline orale. Je peux aussi dire que nous-mêmes, les Européens, qui avons, pour ainsi dire, découvert, inventé plutôt la musique écrite, nous ne l'avons pas écrite pendant plusieurs siècles et que c'est un phénomène très récent. Le solfège est en réalité un phénomène qui a 4 ou 5 siècles. Donc, en faire l'incontournable de l'enseignement musical, en faire un dogme, à mon avis, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de jeunes professeurs ne tombent pas. Et donc, c'est en train d'évoluer. Malheureusement, ça reste encore beaucoup en vigueur parce que ça a fait ses preuves auprès d'un certain nombre d'élèves, de jeunes, qui ne sont pas réfractaires à l'algèbre, on va dire. Mais malheureusement, les tempéraments, je dirais plutôt cerveau droit, les tempéraments créatifs qui sont faits pour la musique sont souvent bannis de l'enseignement ou bien dégoûtés de l'enseignement à cause du côté trop mathématique du solfège. Bon, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais malheureusement, ce lieu commun dans la pratique subsiste et il va falloir tout de même, à un moment donné, penser à tous ces élèves qui ont une grande sensibilité et qui finalement arrêtent la musique parce que
n'arrivent pas. Ils sont dégoûtés par, un petit peu, les méthodes académiques.
Voilà, bon, c'est un petit peu le problème que nous avons aussi dans l'enseignement tout court, l'enseignement général. Il y a une sélection par les mathématiques qui se pratique depuis un certain nombre d'années et qui finalement donne une mauvaise moyenne à des élèves qui sont très bons dans les matières littéraires. Et là, en musique, le problème est encore plus criant, puisque nous avons tout de même à faire une discipline qui est l'expression de la sensibilité, dans laquelle les mathématiques ne devraient avoir une part que d'outils. Et donc, que le solfège est un outil, mais ça n'est pas un dogme.
D'où la naissance d'une solution et d'une méthode plutôt alternative que apparemment vous proposez. Et c'est pour ça que je vous poserai cette question, quelle est la particularité de votre méthode à vous et qu'est-ce qu'elle apporte de plus que la méthode académique et la méthode que vous avez nommée MC Fab, un petit jeu de mots entre la masterclass, Fabrice et Fab bémol.
Oui, si vous voulez. Alors, ma méthode, c'est de ne pas en avoir, c'est justement de s'adapter à la personnalité de l'élève. Bon, la musique est une discipline dans laquelle on peut faire cela. Je pense qu'il faut déconseiller ça pour l'éducation nationale, parce que ça fait plutôt la preuve de son échec. Mais s'adapter à l'élève en musique, c'est possible, avec de bons résultats. Si vous voulez, cette méthode consiste à forger sa méthode en fonction des personnalités que l'on rencontre. Donc, pour ma part, je ne rejette pas entièrement le solfège, je répète que c'est un outil, je ne le jette pas à la poubelle, mais pour les personnes qui, finalement, font travailler plutôt des mémoires tactiles, des mémoires auditives, et pour la musique, c'est tout de même un minimum, eh bien, je vais plutôt privilégier le tactile, l'auditif, ou même le visuel, mais le visuel direct sur le clavier, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par le médium papier, partition, on va essayer de visualiser la partition sur le clavier en apprenant les notes par bloc.
Et apprendre les notes par bloc, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, par bloc, moi je dis bloc, mais en réalité, par abus de langage, on appelle ça les accords. Mais il ne s'agit pas seulement des accords, ces accords peuvent être arpégés, les notes peuvent être jouées une par une ou dans différents ordres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des notes qui vont ensemble. Voilà, et que l'oreille aime bien entendre certaines notes ensemble. Et puis, ces paquets de notes qui vont ensemble changent au fur et à mesure du morceau, c'est ce qu'on appelle les harmonies. Et donc, l'enchaînement de ces harmonies, c'est ce qu'on appelle une cadence. Et donc, j'enseigne tout cela en pratiquant tout de suite, en mettant ses mains sur le clavier, avec des petits exercices ludiques, et très vite, on comprend comment les morceaux sont construits, on arrive à les décortiquer, et en les comprenant, on arrive même à improviser dessus. Alors, peut-être pas le premier jour, mais chacun a son rythme, c'est la démarche en tout cas.
Mais vous devenez quand même des repères, c'est-à-dire la correspondance entre la note et sa correspondance en lettres, par exemple. Donc vous utilisez plus la méthode anglo-saxonne.
Voilà, alors la méthode anglo-saxonne, c'est un lettrage A, B, C, D, E, F, G qui correspond à la si, do, ré, mi, fa, sol.
Donc la gamme démarre par le la.
Par le la, voilà, au lieu de dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, on dit la, si, do, ré, mi, fa, sol. Et on les remplace
donc
par...
Donc là, c'est A, ah, voilà. Et puis on s'arrête au G qui est Sol.
Sol, voilà. Le plus facile à retenir, c'est le Fa qui correspond à F. Parce que là, pour une fois, l'initiale coïncide. Donc c'est le premier qu'on apprend. Voilà, mais après, ça va très vite. Il n'y a que 7 lettres à mémoriser. Et cela permet d'économiser des signes. Je prends une partition, mettons, de Chopin ou de Bach. Et je dis, regardez, on va prendre la première mesure. Combien de signes avez-vous? Alors on compte les notes, on compte les dièses, les altérations, on compte les indications autres, et on se rend compte que pour 22 signes, sur une mesure, on a 22 signes. on va pouvoir les remplacer par un signe.
Ça, de loin, comme ça paraît quand même un peu facile.
C'est une moyenne, mais ça nécessite un travail parallèle. Évidemment, ça n'est pas une réduction de partition qui nous permet de jouer telle quelle la partition avec un seul signe qui en remplacerait 22. Il faut savoir et retenir ce qu'il y a dans le signe qu'on donne. Le signe qui va remplacer, le signe unique qui va remplacer les 22, c'est un signe générique, disons. Et après, on va devoir retenir ce qu'il détient. Cela nécessite un travail de bachotage. Et en masterclass, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne les jeux, les exercices, le ludique, si on veut, avec le purement bachoteur, exercice de répétition et d'apprentissage des accords. Voilà, on a 72 accords à apprendre qui vont nous ouvrir sur d'autres harmonies. Mais ces 72 accords principaux, il faut les savoir. Je répète souvent aux stagiaires qui sont là et qui disent « Oh là là, c'est tout de même un peu fastidieux ». Je leur fais prendre conscience du temps qu'ils gagnent en apprenant ces 72 accords, pardon, en leur disant que savoir lire une partition à vue, c'est en moyenne, suivant les individus, 5 ans de travail acharné. Et là, on en a pour 30 heures.
Non seulement et en 30 heures, on est capable déjà de produire des choses.
On est capable de produire des choses, on sait s'accompagner, et on sait décortiquer un morceau, on sait l'analyser, et à partir de cela, le travail supplémentaire qu'on va produire va nous permettre petit à petit de mettre un pied dans l'improvisation. Donc ça vaut le coup, parce que si vous voulez, non seulement c'est 30 heures qui remplacent 5 ans de lecture, je ne dis pas que c'est exactement l'équivalent, mais ça donne, en échange de l'imprécision, puisque la lecture est quelque chose de précis, puisqu'on lit à la note près, ça donne une certaine autonomie, parce qu'on va reproduire, on va faire travailler son oreille pour retrouver les notes, mais on va déjà avoir en un seul signe le paquet de notes, l'ensemble de notes, celles qui vont ensemble. Voilà.
Est-ce que vous prenez les débutants dans vos masterclass?
Oui, tout à fait. Mais voilà, ce que je vous explique, j'espère que c'est compréhensible par quelqu'un qui n'a jamais fait de musique ou qui a tenté de lire et qui a calé au bout de quelques cours de lire les partitions, a trouvé ça trop difficile parce que le résultat ne venait pas assez vite. Et là, en fait, je garantis le résultat au bout de quelques heures. On sait jouer des choses. On sait jouer des choses et surtout, on s'amuse.
C'est l'essentiel.
Mais oui.
Parlez-nous de vos élèves. Est-ce que tous vos élèves sont devenus des pianistes professionnels?
Alors les élèves, j'en ai depuis les années 80, donc j'en ai eu peut-être 500.
En tout.
Et certains d'entre eux sont même devenus professionnels, ou l'ont été une partie de leur vie. Dans les années 80, il y avait deux jeunes femmes qui ont été mes élèves et qui sont devenues professionnels pendant un certain temps, qui ont fait des saisons dans des hôtels, en piano-bar. Je me rappelle de Martine Véroyenne, qui était une de mes premières élèves à qui j'ai appris à s'accompagner, parce qu'elle voulait chanter. Et puis, je pense aussi à Cécile Kossoff, qui, après, a travaillé dans une multinationale, donc un très grand poste, mais qui a été... qui a fait une saison, je crois, dans un hôtel à la Grande Motte, dans les années 80, et qui, elle, jouait instrumentalement. Je crois qu'elle chantait aussi du Véronique Sanson. Et elle jouait le blues pas mal aussi. Voilà. Puis j'ai eu d'autres élèves qui sont restés professionnels. Je pense notamment à Pierre-Yves Plat, qui a fait carrière, qui est toujours dans le métier, brillamment. Également Bertrand Garde. Et puis bon, que les autres me pardonnent, je peux pas tous les citer, mais Bertrand Garde, lui par exemple, est parti en Thaïlande, il a monté un groupe de rock'n'roll, donc il fait carrière là-bas, il a écrit des ragtime même. Voilà, donc ce sont devenus de brillants pianistes. J'ai une pensée aussi pour Guillaume Perrault, qui nous a quittés à 26 ans, qui avait commencé une carrière très prometteuse, qui était un pianiste fabuleux. Et je pense aussi à Simon Vinemar, qui a été sur un projet de premier disque avec 4 autres pianistes. En fait, j'ai pris l'habitude, pour les pianistes qui voulaient se lancer dans le métier, ou pas d'ailleurs, de leur faire leur premier disque. C'est-à-dire que on se rassemblait, on le faisait en coproduction pour partager les risques et également avoir le pied à l'étrier, c'est-à-dire savoir comment on autoproduit son disque, son premier disque, comment on veut se présenter. Ça permettait d'évoluer, de répondre à toute une série de questions sur soi, de travailler sur un projet qui allait être abouti et immortalisé. Donc, ils étaient en général très jeunes, hein, tous ces élèves dans leur vingtaine, même parfois 16 ou 18 ans. Et donc, dans les années 90, j'avais produit un disque avec quatre jeunes pianistes. Donc, j'ai cité Bertrand Garde, Rémi Toulon, Pierre-Yves Plat et Simon Vidmar. Et puis, un deuxième disque avec cinq pianistes, dont nous allons entendre certains extraits. Et je propose que nous écoutions, par exemple, Jean Remise.
De toute façon, je pense qu'on fera un petit métissage de chaque morceau.
Oui, alors nous allons écouter un autre disque qui là contient les performances de cinq pianistes. Tout d'abord, nous allons écouter Jean Remise dans Triplette Bass Boogie, qui est un boogie-woogie composé par Claude Bolling. Ensuite, un extrait de Desre Boogie par Frédéric Godjikian. Et puis un extrait de Sing 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 par Boris Mlatak, dont je préviens les auditeurs qu'ils seront surpris par l'introduction, puisqu'ils reconnaîtront le Carnaval de Vienne en introduction. Et puis en quatrième position, nous allons écouter Rémi Delahaye dans Boogie Woogie Forty. Des extraits qui font partie d'un disque qui s'appelle le Pianiste 5, que nous avons donc coproduit également avec, avec ses élèves.
Parmi tous ces musiciens, ils sont tous toujours en activité ou il y a ceux qui ont arrêté la musique ?
En activité musicale, oui, mais professionnellement, ils font autre chose. Certains sont dans la restauration, d'autres dans le tertiaire, etc. Sur les cinq que nous aurons écoutés, il y en a un qui restait dans la musique. Mais paradoxalement, le piano l'a propulsé vers autre chose, plutôt vers le clavier. Il écrit des arrangements pour faire du slam.
Et il s'agit de qui ?
Et il s'agit d'Adrien Fauvel que nous écouterons tout à l'heure.
Parfait.
C'est le seul que nous n'avons pas encore écouté.
Et revenant à votre masterclass que vous allez organiser à la fin du mois, pourquoi la masterclass dans l'Aveyron ?
Alors pourquoi pas, déjà ?
Tout à fait.
Ensuite, j'en donne partout, donc je ne vois pas...
Partout en France ou même à l'étranger, peut-être ?
À l'étranger, tout à fait. J'en ai donné en Italie, en Suisse, en Ukraine. Il se trouve que, bon, dans l'Aveyron, j'ai tout de même pas mal d'attaches. Donc, il n'y avait aucune raison de...
Déjà votre festival.
Voilà, tout à fait, le Festival Blues en Aveyron, qui aura lieu au mois d'octobre cette année. Donc, il ne fallait pas s'en priver. Et donc, cette masterclass...
Ça va de soi,
Ça va de soi. Oui, cette masterclass aura lieu à Espalion, au conservatoire, à l'ancienne gare d'Espalion, du 21 au 25 février.
Et est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire son déroulement ?
Alors, cette masterclass ou stage, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était qu'une masterclass, c'est vrai que c'est un mot un petit peu snob, je la déroule sur 4 ou 5 jours, parce que je pense qu'il faut une immersion pour pouvoir justement assimiler ce dont je parlais tout à l'heure, ces fameuses 30 heures qui permettent d'avoir ce bagage et cette autonomie de comprendre la musique. Et cela passe par le clavier, même si on n'est pas pianiste. C'est-à-dire qu'on peut venir avec son instrument, si on est violoniste ou saxophoniste, ou même qu'on chante, il faut passer par le clavier, parce que le clavier, le piano, en l'occurrence, nous avons de très bons pianos au conservatoire d'Espalion, c'est l'instrument panoramique qui permet de comprendre, d'entendre et surtout de visualiser ce déroulement dont je parlais.
Ça ne fait à peu près 7 heures de piano par jour, ça paraît beaucoup, non ?
Il y a des pauses tout de même. Voilà. Puis on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup, on voit pas le temps passer.
On s'entend. Oui. On sent pas le temps passer. Bon, c'est parfait. Ça donne envie, dans tous les cas. Je vous donne alors les informations pratiques que, effectivement, cette masterclass de piano, il va se dérouler à l'antenne du Conservatoire d'Aveyron à Espalion, la salle de la gare, du 21 au 25 février, de 13h à 19h, tous les jours. Et il me semble que le 25, le dernier jour, il y a un petit surprise.
Une petite récompense.
Concert public avec des élèves.
Alors, il ne faut pas que ce soit une surprise, c'est annoncé dès le début parce que ça fait partie de la motivation, justement, de pouvoir construire un petit concert, un mini-concert à la fin du stage. Alors, ce stage est ouvert à tous, on le disait, il est ouvert également à des gens qui n'ont jamais pratiqué d'instrument. J'ai beaucoup de gens qui me disent, c'est la question qui revient à chaque fois, est-ce que j'ai le niveau pour ? Ça n'est pas une question de niveau. Les histoires de niveau, c'est le problème du professeur.
C'est très bien dit. Dans tous les cas, les renseignements concernant cette masterclass, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Blues en Aveyron ou en composant 06 33 67 76 03. 06 33 67 76 03. Et j'aimerais aussi vous poser la question pour ceux qui vont apprendre tardivement l'existence de la masterclass. Et en plus, il me semble qu'il est quand même limité en nombre d'élèves pour rester qualitatif. C'est réservé aux 6 élèves maximum, il me semble. Est-ce que vous comptez organiser plusieurs masterclass dans l'année ou comment ça se passe ?
Alors j'enchaîne ensuite avec une masterclass en Belgique. Et il y a d'autres masterclass qui sont prévues, dont une en Aveyron, probablement à Saint-Hippolyte, au mois de mai. Donc on a une option sur deux des semaines de mai, ça n'est pas encore arrêté, mais il faut surveiller. Et pour cela, rendez-vous sur
la page Facebook de Blues en Aveyron. Il me semble aussi que quand même les locaux du conservatoire d'Espalion peuvent être exploités assez régulièrement, pas dans les vacances scolaires. Ça, c'est très important à notifier. Et pour terminer notre émission, dans votre propre discographie, Fabrice, selon vous, est-ce qu'il y a l'œuvre qui représente le mieux la pédagogie ?
Il y a certains boogie-woogie accessibles que j'écris spécialement pour les élèves. Et ces boogie ça prenne progressivement, c'est-à-dire que la première semaine, j'écris une ligne de basse. Ensuite, alors on arrive très vite à s'amuser, hein, même avec quelques notes. La deuxième semaine, je rajoute quelques accords. Ensuite, je rallonge le morceau. Et ensuite, je rallonge le morceau en rejouant la même main droite, mais en changeant la main gauche. Donc je rajoute des évolutions et à la fin, le morceau est complet. Et donc ces boogie-woogie progressifs, écrits progressivement, disons, semblent faciles, semblent accessibles parce que on ne présente pas toutes les difficultés d'un seul coup. Alors parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle Bob et compagnie, que nous allons écouter, justement, joué par Adrien,
un de vos élèves,
Adrien Fauvel, dont je parlais, qui ensuite a évolué vers le slam, j'ai fait du clavier.
Et donc on termine avec ce morceau progressif, cette émission. En vous remerciant Fabrice d'y participer. Merci aussi David à la technique. rendez-vous le mois prochain. Je vous dis à bientôt.